Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
2018 est une année intéressante à plein d'aspects. C'est le cinquantenaire de mai 68, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet. C'est l'année où on se retrouve sur Osmose Radio pour un énième festival off, chers amis. Et par contre, c'est aussi une année qui rime avec une autre révolution de l'histoire de France un petit peu oubliée, c'est celle de 1848, qui a été très importante au niveau de l'histoire de France, bien qu'on s'en soucie assez peu, et aussi au niveau de l'histoire européenne, puisque ça a été le début, à partir des événements à Paris, du printemps des peuples, qui a résonné d'Allemagne en Angleterre, en passant par la Hongrie, bien entendu, où ça a donné carrément une guerre civile. Donc 1848, une révolution un petit peu oubliée, à mon sens, et j'étais assez heureux de voir un spectacle du Festival OFF 2018 qui s'intéressait à ce genre de sujet avec 1848, journal d'un jeune révolutionnaire dont vous venez nous parler, Pierrick. Bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous en prie. Alors, vous venez nous parler de ce spectacle qui se présente au Théâtre du Vieux Balancier, tous les jours à 11h15 jusqu'au 29 juillet. Alors, le Vieux Balancier, c'est juste à côté de la place Pignotte, qui se trouve derrière la place Pie. Et c'est votre collègue Anne qui interprète, qui lit en fait ce texte, puisqu'il s'agit d'une lecture, mais interprétée, où elle nous met le ton et elle nous met un petit peu dans l'ambiance. Et alors, comment vous-même vous avez découvert ce texte un petit peu insolite, parce que c'est un témoignage d'époque?
Absolument. Alors c'est la chance que l'on a parfois, pas souvent, pas assez à mon sens, quand on est éditeur, où quelqu'un vous choisit pour éditer un truc extraordinaire. Et là, c'est le cas. Sur la cinquantaine de livres que j'ai dû publier, je pense que celui-là, sans vexer les autres, est quand même le plus romanesque, on va dire, même si ça n'en est pas. Parce qu'effectivement, c'est un bibliophile qui a découvert en 2012 le cahier, le carnet de ce jeune étudiant, absolument méconnu, et qui a travaillé pour essayer de savoir, d'abord pour l'authentifier, puis surtout pour voir un peu tout ce qui lui est arrivé pendant ces 2 mois, puisque pendant 2 mois seulement, il a rédigé ce carnet, avec le crayon devant la barricade.
Peu ou prou, oui, puisque les événements ont commencé en février 1848, alors que Louis-Philippe était roi de France à l'époque. On était encore dans une monarchie constitutionnelle et ils se sont déroulés sur plusieurs mois avec différentes phases. Mais on ne va pas refaire l'histoire de la révolution de 1848 à ce micro en 20 petites minutes. Hélas, on n'a pas le temps. Mais c'est intéressant d'avoir un témoignage de première main de cette période-là, qui, je le disais, est une révolution un peu oubliée, parce qu'on pense à 1789, on pense à 1871 et la Commune de Paris. D'ailleurs, au Théâtre du Vieux Balancier, il y a le spectacle sur Louise Michel et la fameuse Commune de Paris. Et 1848, c'est un peu le parent pauvre, alors qu'il a quand même été un moment charnière de notre histoire, qui a été à la convergence, à mon sens, de différentes tendances de la société française, que ce soit au niveau idéologique, avec ce qu'on a appelé les utopies socialistes de Proudhon, de Saint-Simon, etc. Et aussi au niveau de la transformation de la société française que Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, soulignait déjà, dont soulignait les prémices. La France industrialiste peu ou prou, le prolétariat se multiplie et sa condition est assez choquante pour que même des gros bourgeois comme le ministre Guizot se soucient un petit peu de sa condition. Et ça allait, et même le futur Napoléon III, oui, qui était encore, le prince... Bonaparte, c'était...
C'est Louis.
Louis, voilà, Louis, merci. Louis-Napoléon Bonaparte, autant pour moi. Voilà, et donc, Louis-Philippe, lui, par contre, était sur le départ, mais il ne le savait pas encore. Et cette période assez intense fait pas forcément l'objet de beaucoup d'intérêt. Vous avez eu l'occasion de remettre la main sur un témoignage d'époque par rapport aux éditions dont vous occupez, les éditions du Sagittaire. Et le livre, en fait, ce manuscrit qui a été déniché chez un bouquiniste, j'ai cru comprendre, a été édité et ça donnait des réactions.
Oui, forcément, parce que quand on tombe sur un document comme ça, il pose plus de questions qu'il n'en résout dans un premier temps. Et donc, effectivement,
pratique.
Il a fallu rencontrer, essayer de voir qui c'était les 300-400 personnes dont il parle. Donc, c'est un travail extrêmement long. Et à un moment donné, il faut quand même accepter de le publier, même s'il reste quelques interrogations. Et le fait de publier un tel document a suscité heureusement des réponses, des remarques, et quelques questions ont été résolues. Il en reste encore quelques-unes. Par exemple, sur le spectacle qu'on présente, où on a préféré effectivement donner la théâtralité du texte tel qu'il a été écrit en 1948 plutôt que de l'adapter, ce qui était le projet initial. Le projet initial, c'était de faire
une adaptation théâtrale.
Voilà, une adaptation théâtrale sur une scène, ça semblait normal. Mais le texte était tellement bien qu'on a renoncé à le trafiquer, à le changer et donner par contre toute la force de cet élan révolutionnaire de ce jeune garçon qui n'est absolument pas politisé, qui ne revendique absolument rien, qui découvre simplement devant lui qu'il est possible de devenir acteur de son pays. Et c'est un peu la leçon de 1948. À partir de 1948, on dit que les Français se sont intéressés à la politique. Tous. Ça veut dire du paysan mais même à l'empereur après. Voilà. En fait, tout le monde s'est intéressé à la politique et tout le monde s'est aperçu qu'il pouvait être acteur. Ce qui a permis d'ailleurs que 71, la Commune de Paris puisse exister, puisse avoir ce rayonnement-là. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'idéologies, mais il n'y en avait aucune dominante à ce moment-là. En fait, c'est les meilleures conditions pour qu'il y ait un dialogue. Et c'est ça que découvre le jeune Victor. Il découvre qu'on peut parler de tout avec tout le monde, même si on n'est pas d'accord. Alors, évidemment, après, on va sur les barricades pour s'opposer au pouvoir. Mais néanmoins, on construit une France avec toute la possibilité des idées qui ont émergé de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et le gouvernement provisoire, justement, a essayé de donner cette palette aussi. En fait, c'est la palette des idées plutôt que la palette des partis, puisqu'il n'y en avait pas.
Et ils allaient se constituer, mais les tendances étaient déjà là. Et ce personnage s'incarne aussi dans une époque qui est, rappelons-le, l'époque du romantisme. Il y a eu la bataille d'Hernani avec Victor Hugo, etc., dans les cercles intellectuels et artistiques. Mais c'était aussi un moment d'exaltation, parce qu'il y avait une société assez jeune quand même, il faut le rappeler, une exaltation au niveau des idées, que ce soit les idées en art et plus tard les idées en politique. Et finalement, le processus était un peu le même. Et par conséquent, quand ce jeune homme qui a 19 ans à l'époque des faits, lui-même a priori n'incarne pas vraiment le peuple puisqu'il vient d'une classe sociale populaire certes mais relativement aisée. Papa et maman ont réussi à faire en sorte qu'il puisse faire des études d'architecture à Paris. En plus, Paris n'est pas la France parce que c'est quand même une société rurale. Mais tout de même, de toute façon, même si à Paris il y a cette effervescence sociale et intellectuelle, on peut considérer quand même, et des témoignages l'ont prouvé depuis, on a peut-être entendu parler il y a quelques mois de cette maison cossue dans les Alpes où on avait abattu les lambris des planchers pour en faire des neufs. Et en fait, on s'est aperçu qu'au dos de ces plaques de bois, l'artisan de l'époque, dans des années 1850-1860, avait fait un journal intime sur le chantier sur lequel il bossait. Donc pendant que le patron était pas là pour le surveiller, il mettait ses pensées qu'il écrivait à la craie. Et ça, c'est comme le texte que vous avez déniché, ça constitue un témoignage précieux de la mémoire populaire de ces gens-là dont on n'a pas de témoignage officiel.
Alors pour relativiser la place, disons, de Victor Riglet n'a jamais souhaité représenter le peuple, même si après, justement, dans l'emballement de la République, il s'est présenté pour être député et pouvoir construire la constitution de la Deuxième République qui sera votée en novembre. Il n'a pas été élu d'ailleurs, c'est un peu ce que raconte la deuxième partie de son carnet.
C'est nous qui voyons un témoignage populaire et insolite, voilà, dans son
Par
texte.
Par contre, il se sent du peuple, il le dit dans le spectacle d'ailleurs, il le dit bien dans le texte qu'on a mis sur scène, il dit bien qu'il fait partie du peuple. Alors, il y a une notion qui aujourd'hui a un peu disparu, et qui est d'ailleurs... ne marchait pas du tout sous la Commune. Il ne faut pas confondre les rentiers avec les bourgeois entrepreneurs. Ça veut dire que Victor Riglet est le fils d'un homme qui a été ouvrier fondeur et qui, à force de travail, a créé son entreprise et est devenu patron de sa fonderie. Mais il était ouvrier à la base. Voilà. Un esprit éclairé qui a appris l'anglais, enfin qui a vraiment cherché le développement et qui forcément a donné à ses enfants la possibilité de faire des études. Mais il vient d'en bas.
Ça reste un ouvrier qualifié quand même, attention.
Bien sûr, oui, non, bien évidemment. Mais d'ailleurs, on ne pourrait pas avoir de souvenirs écrits sur un carnet de la part d'un paysan. C'est juste pas possible puisqu'il ne savait pas.
Ah si, dans l'exemple que je donnais, c'était un petit artisan d'un milieu rural. Mais c'est pour ça que ce témoignage est d'autant plus intéressant. C'est qu'en faisant des recoupements, on s'aperçoit qu'il correspond réellement à un témoignage populaire, quand bien même la classe sociale de ce garçon ne laisse pas s'y disposer, deviner.
Et la distinction qui a été très intéressante à ce moment-là et le consensus qui a été fait, en tout cas pendant les 4 mois, enfin juste avant le drame de juin 1948, c'est... que le prolétariat n'allait pas bien. Voilà. Et tout le monde était d'accord pour qu'il n'y ait plus de prolétaires, voilà. Qu'il n'y ait plus de prolétariat, parce que c'était synonyme de misère et c'était synonyme de mauvaises conditions de vie. Il y a eu toute une réflexion sur le travail, de la part d'ailleurs des propriétaires. Il y a une grande question sur la propriété à ce moment-là, mais ils faisaient la distinction justement entre ceux qui, avec leur argent, fournissaient du travail aux autres, hein, et ceux qui, avec leur argent, ben, ne faisaient que, en fait, les usuriers, hein, les rentiers étaient associés à ce moment-là aux usuriers. Même Lamartine, hein, qui n'était pas de gauche, estimait néanmoins que bon, il fallait faire attention, quoi, et ne pas affamer le peuple inutilement. Donc il y a quand même eu cette réflexion et ce consensus-là sur le prolétariat qu'il fallait absolument changer, et sur la distinction entre celui qui a de l'argent mais qui donne du travail aux autres, et celui qui a de l'argent et qui a que sa propriété, disons. Voilà. Et c'est une nuance qui aujourd'hui a un peu disparu, enfin qu'on n'entend pas forcément dans les, toujours dans les... voilà.
Pas assez à mon goût, hein, disons.
Dans les idéologies, disons. Enfin, en tout cas, voilà, dans les discours dominants, on entend... voilà, on remet ensemble, disons, ces facteurs-là, qui sont économiquement pas les mêmes.
C'est Gandhi qui disait que le profit sans travail était une des plaies de l'humanité, mais il n'y a pas besoin d'aller dans la sagesse indienne pour avoir ce genre d'idées. Elles existaient bel et bien chez nous déjà à l'époque. Et c'est, à titre personnel, c'est vrai qu'en écoutant Anne interpréter ce texte, il y a des choses qui me sont revenues dont j'ai fait forcément spontanément la comparaison avec la situation actuelle. Quand Louis-Philippe dit « enrichissez-vous », certes, c'est facile à dire quand tu es né cousin de l'ancien roi de France, mais et en plus qui recherche l'alliance autrichienne au niveau politique et économique à n'importe quel prix, bah, ça m'a rappelé un certain président français qui recherchait une alliance avec la Libye à tout prix et qui disait gagner plus, travailler plus pour gagner plus, par exemple. Voilà, alors là, c'est de la comparaison m'est venue spontanément à l'esprit, à tort ou à raison. Hein. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui m'a touché à titre personnel, c'est que je parlais de révolution oubliée, et en 1848, il y avait des gens qui avaient été assez vieux parmi les manifestants de l'époque, pour avoir connu les Trois Glorieuses de 1830, là où il y a failli avoir un changement de régime, ce qui a été le cas, puisqu'on est passé de Charles X, un grand couillon en fait, à Louis-Philippe, qui était un petit peu plus malin, et son cousin lointain. Et du coup, c'est Talleyrand et Lafayette qui, en 1830, avaient un peu manœuvré pour qu'on ne vienne pas à la République, et peut-être que la France n'y était pas encore prête, après tout, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, 1830, ça a été aussi une petite révolution apportée, et 1848, ben, y a des gens qui s'étaient dit, on l'a loupé en 1830, et on va y arriver en 1848, et peu ou prou, ils y sont arrivé, puisque ça a été la Deuxième République.
Alors, il y a même une réflexion que porte notre jeune Victor, qui a 19 ans. Et c'est assez intéressant sur la fin du texte qui est joué par Anne Thunin. Sur la fin du texte, il dit bien, justement, que l'écueil de 1830 a bloqué les avancées de 89 et que 48 est l'occasion, peut-être, de reprendre ce qui avait été bloqué, verrouillé par 1830. Et cette pensée-là, on la retrouvera 2 ans plus tard chez Tocqueville.
Oui, de la démocratie en Amérique, c'est...
Alors c'est dans ses souvenirs, là.
D'accord.
C'est dans ses souvenirs, ouais, de 1850.
Et j'ai eu un doute, parce que quand on parle de Tocqueville, on pense forcément à ce bouquin de la démocratie en Amérique. Et bah, là aussi, une réflexion qui était en cours à l'époque, puisqu'on parlait du bouillonnement intellectuel.
Alors,
à l'époque.
Alors allons-y. Proudhon, par exemple, dont on retient essentiellement la propriété, c'est le vol, n'a pas dit que ça. En fait, ce qu'il a fait, ce qui est très intéressant, lui-même se définissait comme étant le banquier. Il disait, on ne peut faire de révolution qu'en ayant une banque mutualiste. Mmh. Voilà. Et donc, tout son projet s'est fait autour d'une banque pour prêter aux pauvres. Il s'est dit, voilà, on va pas changer la... Et la vraie pensée de Proudhon, c'est lui-même qui dit, moi, je suis un banquier.
Mais la notion de banque est apparue dans l'humanité avant même la notion d'argent, donc je m'en étonne pas, finalement.
Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Alors, donc, on peut aussi bien dire, la propriété, c'est le vol, et en même temps, s'occuper d'une banque mutualiste.
Ça peut surprendre tout de même, bah
oui,
aujourd'hui.
Ça peut surprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on oublie que lui-même disait ça.
Et voilà, donc c'est d'autant plus intéressant de se remémorer.
Victor Hugo, qui ne l'aimait pas trop, l'appelait le financier.
Oui, bon, après, si on commence à rentrer dans les tours, on ne va pas se refaire une bataille d'Hernani aujourd'hui, enfin, non, voyons, Pierrick.
Donc c'était en 32, Hernani.
Oui, mais disons qu'il y avait quand même ces...
D'ailleurs, les misérables, quand est-ce que ça se passe?
Ça se passe pendant la monarchie. Javert est un officier de police de Louis-Philippe. Alors,
on peut poser la question à tout le monde, mais en fait, c'est ça, 1832, c'est pendant les Trois Glorieuses que cela se passe. Et Gavroche meurt en juin 1832. Mais en fait, on ne le sait pas.
Et
c'est-à-dire que dans l'imaginaire de tout le monde, les Misérables, c'est un peu tout le 19e, toutes les révolutions, pourquoi pas la Commune, tant qu'on y est. Enfin, voilà, comme Hugo a traversé le temps, cette révolution de 1830 qui existe dans la littérature, mais n'a pas plus de consistance que 1848. Et on peut poser la question à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les faits de 1830 ou les faits de 1848. Tout le monde aujourd'hui les met finalement dans la même période. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est dans l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron qui est sorti en septembre. On nous indique que depuis 1848, la France est devenue la capitale des révolutions au sens large. Ce qui fait qu'on amalgame un peu, parce qu'effectivement il y en a tellement.
C'est vrai qu'au 19e siècle, on en a fait plusieurs. Et tout à l'heure, je disais en introduction de cette émission que si dans l'histoire de France, 1848 est un petit peu minorée, sinon oubliée, eh bien, au niveau européen, elle a été très importante. Et je pense notamment à la Hongrie, où ça a été un petit peu le principe de nationalité qui a donné malheureusement plus tard le nationalisme. C'est diffusé à partir de ce moment-là et à partir de Paris. Ça a rayonné, peut-être pas dans le monde entier, mais en tout cas dans toute l'Europe, ça c'est sûr et certain.
Alors, en même temps, c'est dans ces années-là qu'on voit la naissance des doctrines communisme, socialisme, dont vous avez parlé au début, mais l'anarchisme aussi.
Proudhon.
Blanqui. C'est 1830 qui lui a permis de commencer à théoriser, et 1848 de commencer à écrire toute sa pensée. Il y avait un club, d'ailleurs, qui était assez visité. Donc, je veux dire, toute la pensée politique s'est aussi mise en place en 1848.
Et elle s'est un petit peu structurée, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de parti, mais elle s'est un peu structurée dans ces moments-là. Alors là, on parle de grands mots avec des ismes, évidemment. Oui. Ceux qui ne sont pas forcément familiers de l'histoire française du 19e siècle, à l'époque, s'y perdront peut-être un peu, mais on connaît tous un petit peu les idéologies de l'époque. Donc Proudhon, qui a été un précurseur de l'anarchisme, et un peu plus tard, de ses réflexions de tous les socialistes français de l'époque, ce qu'on a appelé le socialisme utopique, parce que ça peut être considéré comme une douce rêverie, mais en fait, il y a des applications qui se retrouvent au quotidien. Les mutuelles, les banques mutualistes par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, etc. Puis d'autres idées qui sont apparues en France, dans la société française, comme la sécurité sociale, tout ça. Tout ça, intellectuellement, ça a bourgeonné, ça a commencé à éclore à partir de ces réflexions du début du 19e siècle.
Et la grande force quand même est aussi, et il en parle dans son texte Victor Riglet, on l'entend en tout cas sur la scène du Vieux Balancier, chaque membre du gouvernement provisoire est porteur d'une grande idée. Le Dru-Rollin est porteur du suffrage universel. Lamartine, c'est grâce à lui que le drapeau bleu, blanc, rouge est devenu celui de la France. On a Louis Blanc qui crée les ateliers nationaux. Et chacun, finalement, porte une idée et rentre dans ce gouvernement provisoire qui donne effectivement, un vrai projet pour un pays auquel tout le monde peut adhérer, jusqu'à la trahison de juin, où effectivement le peuple s'est senti trahi.
C'est vous qui appelez ça la trahison.
Oui, parce qu'on le lit chez les uns.
Ça reste très subjectif comme façon de voir. Disons que
c'est l'abandon des ateliers nationaux.
Lamartine a été obligé de composer avec le principe de la réalité, diront certains. Il a trahi, diront d'autres. C'est un vaste débat, mais c'est amusant quand même, parce que je me suis aperçu que pendant le petit débat qui a suivi le spectacle hier, qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur certains points, mais ça fait plusieurs fois que vous me bouffez mes transitions. Donc je m'aperçois qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est amusant. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un spectacle qui dure trois quarts d'heure. C'est relativement court. Il y a une lecture d'une demi-heure. On ne voit pas le temps passer parce qu'on est vraiment dans le texte par l'interprétation qu'en fait Anne Thunin, et qui ne peut pas être avec nous ce matin d'ailleurs à 10h à l'hôtel Novotel, puisqu'elle est en spectacle, dans un spectacle pour enfants en fait, qui s'appelle toujours accompagnée, on imagine.
Qui s'appelle On imagine.
On imagine, tout simplement, voilà. Donc si vous voulez, allez la voir aussi avec vos petits bouts de chou. Et puis après, pour vous, peut-être les adultes, vous pourrez vous intéresser à ce spectacle à 11h15 au Théâtre du Vieux Balancier. 1848, journal d'un jeune révolutionnaire. Et donc, là, je voulais aussi en venir à l'aspect historique. Tout le monde n'est pas forcément familier de cette période-là. C'est vrai que c'est foisonnant, c'est vrai que c'est lointain. On a vaguement étudié ça au lycée et on est passé très, très vite dessus. Et vous avez la caution notamment d'un historien, d'un féru d'histoire contemporaine, c'est Jean Tullard, qui a fait la préface du livre aux éditions Le Sagittaire, c'est ça ?
Absolument. Absolument, parce que le document était tellement important qu'il fallait cette caution aussi une caution de reconnaissance quoi, pour ce document, parce qu'on pourrait toujours se dire, mais est-il vraiment juste, est-il vraiment réel, est-il authentique ce document-là ?
Donc, il y a eu pas mal, vous avez fait quand même pas mal de recherches.
Oui, il y a eu Denis Feigny qui a établi l'édition scientifique. Bon, après, j'ai fait... a beaucoup travaillé sur l'authenticité et sur tout ça. Donc effectivement, on est face à un texte extraordinaire d'une rareté et qui, comme le dit effectivement Jean Tullard, va nourrir, nous apporte des informations sur des choses complètement inconnues. Notamment, j'y pense rapidement, mais Victor Riglet ne voulait pas être le représentant du peuple, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il n'avait aucune connaissance de rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'était pas, absolument pas politisé.
Mais il avait 19 ans, ce jeune homme.
Aucune revendication, rien du tout. Il est tombé dans le fait révolutionnaire. En fait, c'est ça. Et c'est ça qu'il a dit, mais tiens, il suffit de faire ça pour être acteur de sa vie et créer une république.
Voilà, et bon, ils y sont arrivés pendant quelques années, puis après, le césarisme a fait en sorte que ça a été Louis-Napoléon, je vais enfin retrouver son prénom, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, qui a pris les choses en main, du moins pour un temps. C'est une période historique foisonnante, une période historique qui, pour ma part, me passionne. Le début du 19e siècle et ces transformations de la société française qu'on peut encore ressentir jusqu'à aujourd'hui, il y en a des vibrations, sinon des échos, qui se transmettent encore dans notre histoire contemporaine, et 1848 mérite quand même non seulement votre intérêt, mais vos réflexions. Chers amis, vous pouvez vous en faire une petite idée et aller discuter avec Pierrick et Anne à la fin du spectacle, puisqu'il y a un petit débat de 10 minutes, un quart d'heure à la suite de cette lecture. Pour ce spectacle, 1848, journal d'un jeune révolutionnaire au Théâtre du Vieux-Balancier à 11h15. Vous êtes satisfait des retours que vous avez du public ?
Je suis très surpris de l'intérêt que cela a suscité.
Ah, je suis pas le seul,
et j'en
alors.
Suis très heureux. Ah oui, non, ah. J'en suis très heureux, très très heureux, parce qu'effectivement, c'était le 170e anniversaire et c'était dommage que personne n'en parle.
Ben écoutez, c'est une belle initiative que vous avez eue en tout cas, et pour ma part j'en suis assez heureux. Voilà chers amis, évidemment vous pouvez retrouver ce podcast si vous avez loupé le live Facebook, vous pouvez retrouver le podcast incessamment sous sur le site osmos-radio.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour couvrir à nouveau l'actualité du off.